Bonjour, bonjour à tous. Je ne vois pas tous les noms ce matin, mais bonjour à ceux que je vois et que je ne vois pas. Donc, bonjour à Lucie, bonjour à Marie-Marthe, bonjour à Immacula, bonjour à mon père, à ma mère. Je ne sais pas si ma soeur et mon neveu sont avec eux ce matin. On les salue. Bonjour à Marie-André, bonjour à Farley. Soyez bénis vous aussi. Le bonjour à Lynn, si vous lui parlez. Bonjour Gilles. Gilles, ne t'inquiète pas si tu vois que la guitare a disparu de mon bureau. J'en ramène une autre sous peu. Je suis passé au bureau pour la chercher. Je vais changer celle que je laisse à l'église. Donc, ne t'inquiète pas si tu vois que je suis passé. Merci Marie-André. J'espère que vous allez bien. On est le mardi 19 juillet. Journée nuageuse. Avec de la pluie, je crois, encore aujourd'hui. En fait, il y a de la pluie pendant les deux prochaines semaines, un peu à tous les jours. Donc, parfois un peu et parfois beaucoup. On s'excuse de l'absence d'hier. Cette fois-ci, c'était pas à cause de la santé, mais il y avait un va-et-vient de marteau-piqueur et de bulldozer devant la maison. Donc, la maison tremblait et ne pouvait donc pas servir de lieu de diffusion. Mais dès que la pluie a commencé, pouf, ça a tout disparu. Qui d'autre est là? Bonjour Nathalie. Que Dieu te bénisse. Bonjour Guy, sois béni. Bonjour Denise. Alors ce matin, c'est l'anniversaire de la sœur Chantal Blain, qui nous écoute quotidiennement avec la sœur Rachel. Donc, si vous voulez souhaiter un joyeux anniversaire à la sœur Chantal, assurément, faites-le dans la zone commentaire et je suis convaincu que la sœur Rachel saura par la suite transmettre les salutations. Donc, aujourd'hui, anniversaire de la sœur Chantal. Bonjour à la belle-mère. Bonjour Gérard, bonjour Denise. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes bien remis de la COVID? Frère Gérard avait été... Frère Gérard et la sœur Denise, mais surtout le frère Gérard avait été affecté par la COVID dernièrement. Donc, on espère que ça va mieux. Bonjour à Louise, bonjour à Michel. Je vais juste approcher le micro un peu. Parce est-ce que la voix pourrait être compliquée ce matin? J'espère que je ne tousserai pas trop. On continue cette semaine encore notre étude sur 2 Timothée. Au chapitre 4, on reprend la prédication non pas de dimanche qui vient de passer, mais de l'autre avant. Et là, on parle avec la thématique tout au long de la semaine. Veillez à positionner les bonnes personnes. Veillez à positionner les bonnes personnes. Bonjour Pascal, que Dieu vous bénisse, salutations. Maman Angela. Alors voilà de bonnes nouvelles, Gérard et Denise. Bien heureux que ça aille mieux. Alors, je vous rappelle, je ne vois pas la sœur Rachel connectée ce matin. C'est elle à travers laquelle la sœur Chantal Blain se connecte habituellement. Mais c'est l'anniversaire de notre sœur, donc Chantal. Donc, on la salue et on lui souhaite un très joyeux anniversaire. Bonjour Bernadette. Alors encore une ou deux minutes et puis on débute officiellement. Je me suis mis dans un autre angle aujourd'hui parce que pour X raisons, il semble que la clarté rentre trop malgré que ce soit nuageux. Bizarre. Bonjour Babette, bonjour Andreas, bonjour la petite famille. Frère Frédéric, que Dieu vous bénisse. Bien heureux que vous soyez avec nous. Salutations à votre épouse. J'espère que vous allez bien dans la belle ville d'Abidjan, qu'il me faudra aller visiter encore une fois un jour. Je rêve d'aller dans le pays juste au nord, y retourner, parce que le Burkina a pris, a volé une partie de mon cœur quand j'y suis allé au début des années 2000. Donc je rêve d'y retourner, et ce faisant, assurément, je ferai un saut à Babi. J'ai des gens que je dois aller voir là-bas. Bonjour Maggie, que Dieu vous bénisse. À Babi, à Abidjan, j'ai notamment quelqu'un avec qui j'ai été co-chambreur pendant plusieurs années alors que j'étais en France. Il est maintenant un professeur chargé de département à l'université de Yamoussoukro. C'est encore un bon copain. Et dimanche, il y avait son neveu qui était à l'église. Donc ça faisait plaisir de se remémorer tout cela. Alors, moi, j'ai pas vu la sœur Rachel se connecter, mais continuez à envoyer vos salutations à la sœur Chantal pour qui c'est l'anniversaire aujourd'hui. Bonjour, sœur Nancy. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va prier et après quoi, on va faire la lecture du texte du jour et puis on continuera avec nos explications. Ou notre enseignement sur veiller à positionner les bonnes personnes. Alors je prie. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour cette grâce que nous avons d'étudier ta parole, d'être enseigné et d'être fortifié par elle. Nous prions Seigneur que celle-ci puisse trouver un bon terrain bien préparé pour s'enraciner en nous, croître et porter un fruit qui t'est agréable et utile pour l'avancement de ton royaume. Alors bénis ma sœur, bénis mon frère, bénis tous ceux qui sont connectés avec nous ce matin, ceux qui nous regardent de près ou au loin, coupé par un océan ou deux. On te prie, Seigneur, de déverser une même grâce, une même onction, une même bénédiction sur nous tous et même sur ceux qui nous regarderont plus tard. On te demande, Seigneur, d'être là aussi et de bénir tous ceux qui écouteront cet enseignement dans quelques heures, voire même dans quelques années, qu'une même grâce et bénédiction nous soit accordée à tous et chacun. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors je lis pour vous ce passage qu'on étudie depuis environ 3 ou 4 semaines maintenant, dans 2 Timothée au chapitre 4, du verset 6 au verset 22. Le verset 6 nous dit « Car pour moi je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée, et le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres sur tous les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas, et la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver, Eubulus, Pudence, Linus, Claudia, et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Alors c'est 3 ou 4 versets, en fait non même 5 versets, qui vont nous servir de réflexion cette semaine. Je les reprends pour vous. Il y a le verset 10 pour ceux qui prennent des notes, le verset 10, le verset 12, le verset 13, puis le verset 19 et 20. Le verset 10 nous dit « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. » Verset 12 « J'ai envoyé Tychique à Éphèse. » Verset 13 « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres sur tous les parchemins. » Le verset 19 « Salut Prisca et Aquilas, et la famille d'Onésiphore. » Verset 20, et on termine avec celui-là. « Eraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. » Alors que Dieu bénisse sa parole cette semaine. La thématique de cette semaine, veiller à positionner les bonnes personnes. La semaine dernière, on a vu veiller à s'entourer des bonnes personnes. Toutefois, dans le ministère de Paul, comme on le sait, il a beaucoup voyagé. Il est le premier, en fait, qui a fait ce qu'on appelle aujourd'hui des voyages missionnaires. Ça veut dire partir de l'église mère ou de l'église qui sert d'église de base pour nous. Et dans le cas de Paul, c'était l'église d'Antioche. On se rend compte que c'est là qu'il a grandi pendant 14 ans, avant qu'il ne soit appelé officiellement vers un ministère plus itinérant avec Silas. Lorsque le Saint-Esprit est intervenu dans une réunion avec tous les anciens d'Antioche, de l'église d'Antioche, et le Seigneur va proclamer « Mettez-moi à part Paul et Silas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Et suite à cette prophétie et à la prière et à l'imposition des mains des anciens, on a donc relâché Paul et Silas pour qu'ils fassent des voyages missionnaires. Donc Paul, lorsqu'il quittait Antioche, va visiter différentes contrées dans lesquelles il va proclamer le message de l'Évangile, le message de Christ comme sauveur de l'humanité, comme fils de Dieu, comme Messie envoyé pour le salut de l'humanité à travers sa mort et sa résurrection. Les conversions qui vont se passer suite à l'enseignement de Paul dans chacune des villes ou des contrées vont susciter la mise en place d'églises. Et pour ces églises, Paul va rester un certain temps dans chacune de ces villes, auprès de chacune de ces communautés, mais par la suite va quitter pour poursuivre son ministère. Alors à l'occasion, il va laisser des gens sur place pour prendre la suite. À d'autres occasions, il va envoyer certains de ses proches collaborateurs là-bas. On le voit particulièrement dans le cas de Timothée. On se rend compte à un moment donné dans le premier épître de Paul à Timothée, on dit « je t'ai envoyé à Éphèse pour que tu règles des choses ». Puis, cette deuxième lettre, on se rencontre en raison des personnes qui sont mentionnées comme étant dans le même lieu géographique que Timothée. On se rend compte que Timothée est maintenant à l'église de Corinthe. Dans un cas comme dans l'autre, c'était pour régler des choses. À Éphèse, Paul va le dire clairement. Et concernant Corinthe, bien, on sait tous que Corinthe était une église tout à fait particulière, avec de gros défis et de grosses restructurations qui devaient survenir dans l'église à cause de certaines déviations qu'on observait au niveau des croyants. Donc Timothée a été envoyé à Corinthe pendant un certain temps aussi, et c'est là qu'il reçoit ou qu'il c'est là qu'il est lorsque la seconde lettre à Timothée est envoyée. Donc cette semaine, on va prendre chacun des noms, encore une fois, des personnes qui sont mentionnées comme étant à distance de Paul. La semaine dernière, on étudiait les personnes et les noms de ces personnes qui étaient autour de lui. On va se rendre compte qu'avec ces gens qui sont au loin, c'est encore une fois une série d'enseignements. Voyez, le chapitre 4 de Timothée aurait pu tout simplement être lu et avec une lecture de surface, on se dit, bon, mais c'est chouette, Paul se rend compte qu'il a certaines personnes qui l'aiment, et puis il mentionne aussi des personnes qui apprécient Timothée. Et on aurait pu déjà être enseigné par le fait qu'il y a une communauté qui existe au niveau de l'Église. L'Église représente une communauté et cette communauté se doit d'être, comme on le dit au Québec, tissée serrée afin de pouvoir se supporter, se soutenir, s'encourager les uns les autres. Et Paul va mentionner ces différentes personnes qui sont des bénédictions pour lui. Mais on se rend compte aussi que différentes personnes vont aussi saluer Timothée. Donc, preuve que ces personnes sont aussi une bénédiction pour Timothée. Mais lorsqu'on étudie un peu plus profondément ce texte, on se rend compte que chacun des noms qui sont mentionnés, dans leur sens originel, dans le sens de la langue d'où ils proviennent, que ce soit le grec dans certains cas, l'hébreu dans d'autres, ou le latin même dans d'autres cas, ces noms revêtent une signification qui pour nous sont un enseignement. Et si on n'a pas les bons outils, si on n'a pas nécessairement les bonnes connaissances, on peut passer outre cette richesse. Pour moi, ça m'emballe toujours et ça m'émerveille constamment de voir combien la parole de Dieu peut être lue à différents niveaux et qu'elle est d'une profondeur inouïe qui fait qu'on peut s'y plonger, s'y prélasser pendant des années et des années. Et on apprend encore des choses. Je m'émerveille lorsque j'étudie le psaume 23, pour lequel j'ai beaucoup étudié, lequel j'ai beaucoup enseigné. Et à chaque fois que je revisite ce passage, je me rends compte qu'il y a des choses que je ne savais pas, que je ne connaissais pas, qui me sont révélées à chaque fois que je l'étudie. Et dans ce texte, qui pourrait sembler banal, simple, jusqu'à un certain point, au niveau de Timothée au chapitre 4, puisque c'est essentiellement un texte de salutation de la part de Paul, on se rend compte que il est riche. Certains me diront, oui, mais Est-ce que Timothée était conscient de la richesse même de ce passage? Assurément, puisque Timothée connaissait le sens de chacun de ces noms. Il en comprenait le sens alors que nous, ça peut nous être caché. Pourquoi en comprenait-il le sens? Mais parce que Timothée était, oui, juif de naissance d'un côté, mais aussi grec de par son papa. Donc les noms qui étaient en grec, il comprenait le sens qui était élaboré avec ce nom-là. Pour les noms qui étaient en latin, ben, Timothée était en route vers Rome pour seconder et appuyer Paul. Et puisque ces noms étaient des ajouts au nom originel de ces personnes, donc ils venaient avec un sens particulier. On donnait ce deuxième prénom, ce nouveau surnom ou prénom aux gens, tout simplement pour faire sortir un élément important de leur caractère, de leur personne ou de leur fonction. Donc Timothée, oui, comprenait la portée de chacun de ces noms. C'est nous qui avons peut-être moins de connaissances au niveau linguistique des siècles plus tard, voire pratiquement 2 millénaires plus tard. C'est nous qui passons à côté de ces richesses-là. Mais par la grâce de Dieu, depuis quelques semaines, on s'arrête sur ces noms et on se rend compte que c'est une bénédiction et un enseignement pour nous. Alors commençons déjà avec le verset 10 et probablement qu'on s'arrêtera sur ces deux noms tout simplement aujourd'hui. Peut-être qu'on ira vers le verset 12 par la suite. Alors je relis pour vous le verset 10 qui nous dit: Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allée en Galatie, Tite en Dalmatie. Bien entendu, on ne reparlera pas de Démas puisqu'on l'a mentionné lors de la première semaine et que ça faisait partie de notre enseignement à ce moment-là. C'était la dichotomie qu'il y avait entre Démas qui va être un collaborateur rapproché, dans la garde rapprochée de Paul pendant 15 ans et qui malgré tout, lorsque Paul se retrouve au moment le plus difficile de son existence à Rome, Démas, pour les raisons qui sont siennes et qu'on ne mentionne pas nécessairement avec profondeur, on nous dit qu'il va repartir pour Thessalonique par amour pour le siècle présent. Et ça s'est mis en juxtaposition ou en opposition avec l'amour que Paul dit qu'il va avoir ou qu'il aura eu tout au long de sa carrière pour l'avènement de Christ. Donc un aimait le siècle présent, l'autre aimait l'avènement de Christ, donc ce qui se passe dans l'éternité. Un a jugé comme plus important, plus lourd dans sa balance personnelle, les choses de son présent, alors que Paul, en l'occurrence, va nous dire que ce qui comptait pour lui, c'était l'avènement de Christ, donc ce qui se passe lorsque Christ vient chercher son Église. L'un travaillait pour le gain et le bénéfice maintenant, ponctuel, présent, des masses, et l'autre travaillait en investissant plutôt, pour l'avenir, et là c'était Paul. Donc on ne parle pas de Démas ce matin, mais on parle plutôt de deux autres personnages dans ce verset 10. Crescence, qui est allé en Galatie, et Tite en Dalmatie. On s'arrête juste au nom des personnes et non pas au territoire qu'ils vont aller couvrir. Crescence veut dire qui grandit. Crescence, c'est en latin en fait, c'est pas en grec. Et de celui-là, les personnes qui sont latines, qui sont de langue hispanique notamment, vont voir le lien avec le terme crecer. Donc crescence, le prénom, crecer en espagnol, un mot de la même famille qui veut dire croître. Crescence voulait dire celui qui grandit. Celui qui grandit. Et c'est une chose importante. On n'a pas dit celui qui a grandi, celui qui a suffisamment grandi. Non, on dit celui qui est en croissance, celui qui est en train de grandir. Une chose importante qu'on doit savoir, c'est que nous tous, quelle que soit notre expérience, quels que soient nos acquis, quel que soit le parcours qu'on a déjà derrière nous avec les années et avec notre cheminement avec Christ, nous restons et nous demeurons, ou nous devrions rester et demeurer dans ce processus de croissance. Aucun d'entre nous n'atteint de ce côté-ci de l'éternité une stature suffisante, ou aucun d'entre nous ne peut atteindre de ce côté-ci du ciel une stature qui soit parfaite, totale et extrême. On est tous appelés à aller de progrès en progrès. Et lorsqu'on progresse, ça veut donc dire que je pars d'un état moindre pour aller vers un meilleur état. Je pars d'un statut moindre pour aller vers un statut supérieur. Quand on parle de croissance, on parle donc de partir petit pour terminer un peu plus grand. On ne dit pas qu'on termine énorme, qu'on termine géant, mais on a un processus de croissance. On a cette étape où on est en train de grandir. Et lorsque Paul va parler de croissance, il va dire effectivement qu'il est celui qui est en train de croître, de grandir. Ce qui est intéressant concernant croissance en particulier, c'est que selon la tradition qui a été développée par rapport à croissance, la tradition va dire que c'était, oui, un assistant de Paul, donc quelqu'un qui travaillait auprès de Paul, mais que c'était quelqu'un qui était à la base plus âgé que Paul, et de surcroît à ça, à la base qu'il avait été membre du cercle rapproché de Jésus. On pense que Crescence faisait partie des 70. Souvent, on parle simplement des 12, donc des 12 disciples, mais ils étaient plus nombreux que ça. Il y avait, oui, une garde très rapprochée qui était 12, et même dans cette garde-là, rapproché, il y avait même de plus intimes encore lorsqu'on parle de Pierre, de Jacques, d'André et de Jean. On se rend compte que ces quatre-là, parmi les 12, étaient encore plus proches du Seigneur. Mais les 12 formaient un groupe restreint parmi un groupe un peu plus étendu qu'on va mentionner à l'occasion, et on va les appeler les 70. Et on pense que Crescence était membre des 70. Est-ce qu'on a une preuve parfaite de la chose? Non. La tradition, par contre, nous dit depuis toujours que Crescence faisait partie des 70. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On ne peut pas assurer la chose. Toutefois, si c'est vrai, ça veut donc dire que Crescence aurait connu Jésus de façon physique, dans le sens qu'il aurait été un témoin oculaire de Jésus, alors que Paul n'a jamais été un témoin oculaire de Jésus. Paul est venu après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. Donc Paul, hormis cette expérience d'épiphanie qu'il va connaître sur le chemin d'Emmaüs, sur le chemin de Damas, lorsque Jésus va renverser son cheval et se présenter à lui. Hormis cette expérience spectaculaire que Paul va avoir connue sur le chemin de Damas, Paul n'a pas côtoyé Jésus, alors que Crescence l'aurait côtoyé. Si c'est effectivement vrai, c'est aussi une preuve d'humilité de la part de Crescence, de pouvoir s'associer à Paul, qui n'était pas là du vivant de Jésus. Paul, qui n'était pas un collaborateur proche de Jésus, voire Paul qui a été à un moment donné un persécuteur de l'Église, malgré tout, Crescence, voyant l'onction, voyant l'appel que Dieu avait lancé sur la vie de Paul, va accepter en toute humilité, en toute simplicité, de venir se placer à côté de Paul pour l'assister durant son travail. Et Paul va tellement apprécier le service de Crescence qu'il va l'envoyer dans une des églises importantes créées sous le ministère de Paul, qui est l'église de Galatie. C'est vraiment un enseignement particulier de Crescence. Mais en même temps, ce n'est pas nécessairement étonnant de voir cette humilité. Pourquoi? Parce que si Crescence est appelé quelqu'un qui croit, quelqu'un qui grandit, quelqu'un qui est en période de croissance ou en processus de croissance, ben pour apprendre, ça prend de l'humilité. Pour être enseignable, même avec les années, puisque Crescence serait plus âgé que Paul, ça prend donc de l'humilité. Rester enseignable, je ne sais pas si le terme existe, mais j'aime l'utiliser parce que c'est assez frappant comme image. Rester enseignable, même à travers les années, même à travers l'expérience, demande à la base une disposition à apprendre, donc une disposition à travers laquelle on dit, je ne connais pas tout, je ne sais pas tout, je ne connais pas assez, je ne sais pas assez. Crescence avait cette attitude de l'étudiant perpétuel, celui qui doit grandir. Et ce qui était intéressant, c'est que lorsqu'on regardait Crescence, on voyait cette croissance-là. On ne l'aurait pas appelé celui qui est en train de grandir, celui qui est en train de croître, si il n'en affichait pas la preuve, s'il n'en affichait pas les fruits. Non, il présentait effectivement, même avec les années, les fruits, les images, les particularités de quelqu'un qui est en croissance. Alors pour toi et pour moi, ça devrait être un enseignement. Nous devrions demeurer enseignables et nous devrions savoir que nous ne pouvons pas, de ce côté-ci de l'éternité, atteindre notre plein potentiel, que nous sommes toujours en quête de ce plein potentiel, en quête de cette parfaite stature de Christ. Mais nous tendons à la chose. En tout cas, nous devrions tendre à la chose. Plus encore, les gens devraient remarquer autour de nous que nous sommes en train de grandir, que nous sommes en train de croître. J'espère que je ne suis pas le même homme de Dieu que lorsque j'ai commencé à servir le Seigneur à la fin des années 90, ou voire même plutôt à la fin des années 80. J'espère que je ne suis pas le même serviteur que lorsque je commençais à prêcher à Narbonne en remplaçant mon père qui était en voyage. J'espère que je n'ai pas la même personnalité que lorsque j'ai rencontré mon épouse et qu'on était tout jeune et que je n'avais que 17 ans. J'espère que je suis un meilleur homme aujourd'hui. J'espère que je suis un meilleur serviteur de Dieu aujourd'hui. Et j'espère surtout qu'encore aujourd'hui, on peut me regarder et percevoir une croissance. C'était ce que Crescence donnait comme exemple. Donc, quelqu'un qui va être placé pour le service et pour le ministère doit afficher effectivement une croissance perpétuelle. On ne doit pas afficher une stagnation. On ne devrait pas afficher plutôt un état de plateau. On devrait afficher un désir de croître et un processus constant de croissance. Ça, c'est l'enseignement concernant Crescence. On nous dit aussi que Tite, toujours dans ce verset 10, et ça va être notre dernier personnage aujourd'hui, on nous dit que Tite va être envoyé en Dalmatie. Tite, c'est le nom qui nous le donne, est un chrétien d'origine païenne, donc ce n'est pas un juif. Il est d'origine grecque ou romaine et il est un compagnon de Paul dans certains de ses voyages. On le trouve à quelques reprises donc auprès de Paul et ici, dans l'épître, la seconde épître à Timothée, on nous dit qu'il a été envoyé en Dalmatie pour s'occuper de l'Église Tite n'est pas n'importe qui. Et encore là, il est envoyé en Dalmatie avec un nom tout particulier qui pour nous doit aussi nous servir de référence et doit aussi être un exemple. Tite veut dire celui qui soigne. Celui qui travaille pratiquement dans l'image du terme comme un infirmier. Donc celui qui prend soin des autres. Tu ne peux pas vouloir travailler dans le royaume de Dieu et ne pas avoir à cœur de prendre soin des autres. Tu ne peux pas vouloir travailler et être utilisé dans le royaume de Dieu et être un être égocentré. En tout cas, tu ne devrais pas le demeurer. Tu ne devrais pas entrer en service avec cette attitude égoïste, égocentrée qu'on retrouve malheureusement à l'occasion, même chez certains serviteurs. Tite va nous montrer que le service est un service de soins que nous accordons aux autres. Tu n'as pas le don de guérison pour toi-même. Tu n'as pas le don de prophétie pour toi-même. Tu n'as pas le don de parole de connaissance pour toi-même. Oui, j'ai le don, certains vont dire, oui, j'ai le don de prophétie, puis on se rend compte qu'ils sont en train de parler pour eux-mêmes. Le don de prophétie, quand il se manifeste, c'est pour autrui. Le don de guérison, c'est pour autrui. C'est pas genre, je m'impose les mains sur le pancréas et puis ce que je pourrais avoir dans le pancréas est maintenant changé, transformé, puis je suis guéri. J'ai un mal de tête, je m'impose les mains et puis. Non, quand on a le don de guérison, c'est pour autrui. Lorsqu'on a le don de parole de connaissance ou de parole de sagesse, c'est pour autrui. Tous les dons que Dieu donne, c'est afin qu'ils soient manifestés, non pas vers notre personne, mais pour ceux qui nous entourent. Lorsqu'on rentre en service pour Dieu, on ne se sert pas soi-même et on n'entre pas en service, comme on l'a vu la semaine dernière et à plusieurs reprises, dans le but de satisfaire son propre ego et sa propre personne. L'objectif du service de Dieu est de prendre soin du peuple de Dieu. Alors, si tu ne veux pas prendre soin du peuple de Dieu, tu as un sérieux problème avec le service chrétien. Christ ne s'est pas servi lui-même et il est l'exemple parfait du serviteur. Christ n'est pas venu sur cette terre pour satisfaire ses propres besoins, ses propres intentions, ses propres aspirations et sa propre volonté. Il est venu et il a accepté de délaisser sa gloire éternelle, sa gloire divine et royale, pour descendre ici-bas sur terre, pour servir l'avancement du royaume de Dieu, en acceptant même des rôles aussi humiliants que l'esclave, comme on a vu lorsqu'il lavait les pieds de ses disciples, ou comme le plus vil des pécheurs lorsqu'il va mourir à la croix. Donc l'exemple de Christ qui nous est donné, l'exemple de Paul qui nous est donné par la suite, et l'exemple de Tite qui nous est donné par son nom et par son service, c'est quelqu'un qui soigne. Nous devons être altruistes dans notre service pour Christ. Le chrétien devrait faire preuve d'altruisme et non pas d'égoïsme. Et malheureusement, c'est encore quelque chose avec lequel on lutte si régulièrement. C'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, est un combat à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que notre nature pécheresse va nous dire d'aller à l'encontre de cela. Et même notre philosophie ou notre pensée très contemporaine a été façonnée par un temps d'enseignement qui vient nous dire le contraire. L'exemple parfait, c'est celui avec le fameux dicton, le fameux proverbe très de ce monde qui dit tu dois prendre soin de toi si tu veux prendre soin des autres. Celui qui dit qu'avant de secourir les autres, tu dois te secourir toi-même. Tu ne peux pas te placer en danger pour secourir les autres. Cette philosophie-là, elle est très mondaine, elle est très contemporaine et elle est surtout pas du tout biblique. Parce que si cette pensée de prendre soin de toi pour pouvoir mieux prendre soin des autres était biblique, on s'entend que Christ nous a démontré complètement le contraire. Christ qui va donner sa vie pour le salut de l'humanité. Paul qui va se faire tout à tous, même ce qu'il n'est pas. Il va faire l'effort pour devenir juif avec les juifs, grec avec les grecs, même s'il n'était pas grec, même s'il n'était pas sans loi. Il va dire, avec ceux qui sont sans loi, je me suis fait sans loi. Et avec ceux qui étaient avec la loi, même si je n'étais pas sous la loi, je me suis fait comme étant sous la loi. Pourquoi? Je me suis fait tout à tous pour en gagner au moins quelques-uns. Le service chrétien est un service altruiste. Et je dirais, la vie du chrétien, pas la vie chrétienne, la vie du chrétien, la vie de l'enfant de Dieu, dans toutes ses facettes, dans toutes ses journées, dans toutes ses circonstances, devrait être une vie axée vers autrui et non pas vers soi. Malheureusement, comme on l'a vu à maintes reprises à travers les siècles, comme on l'a enseigné il y a quelque temps, nous devons faire attention parce que plusieurs vont s'engager dans le service tout simplement pour ce que ça leur rapporte. Dans un tel cas, mon objectif n'est plus servir Dieu. Mon objectif n'est plus de servir mon prochain. Mon objectif est maintenant de tirer un profit, de me bénir moi-même par les actions que j'accomplis envers autrui ou envers Dieu. Mais mon objectif n'est plus Dieu et mon objectif n'est plus autrui. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ce matin? On a vu tout d'abord que nous devrions demeurer tout au long de notre parcours de ce côté-ci de l'éternité dans un processus de croissance. Nous devons avoir l'humilité d'être enseignable, l'humilité de reconnaître que nous devons continuer à apprendre et garder l'humilité dans nos propos, dans nos actions, dans nos façons d'être de celui qui se maintient encore aujourd'hui dans le statut d'étudiant et d'élève. De surcroît à cela, nous devons maintenir tout au long de notre parcours cette attitude de celui qui prend soin des autres, celui qui s'inquiète des autres, celui qui se préoccupe des autres, celui qui voue sa vie au service d'autrui. Alors voilà ce que nous avions. Prions. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci pour ces deux personnages dont le nom est une source d'enseignement pour nous. Crescens, celui qui grandit. Tite, celui qui soigne. Nous prions Seigneur que tu puisses effectivement façonner ce saint caractère en nous, ce divin caractère en nous qui nous maintient un étudiant de ta parole, un étudiant divin tout au long de notre parcours ici-bas sur terre et surtout, Seigneur, aussi un soignant de nos frères, un soignant de notre prochain, quelqu'un qui ne vit pas une vie axée sur lui-même, axée sur sa propre personne, sur son profit, sur ses attentes, sur sa quête personnelle, mais dont l'unique désir le plus profond, ce qui meut ses actions, ce qui meut ses implications, ce soit, Seigneur, le bien-être d'autrui. Tu es venu sur cette terre pour bénir l'humanité et tu nous as placés sur cette terre pour bénir l'humanité et non pas notre propre personne. Alors que cela reste gravé en nous et que nous ne puissions pas nous permettre, nous autoriser à continuer à vivre dans l'égoïsme, dans l'égocentrisme, mais que notre vie soit donnée, offerte pour l'avancement de ton royaume et la bénédiction de ceux qui nous entourent. Bénis ma sœur, bénis mon frère, arrose cette parole dans la vie de ses bien-aimés et que cela leur serve de base pour la croissance et de base pour le service. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin pour la suite des enseignements. On devrait voir demain deux personnages pour sûr, Tichée, Carpus, peut-être davantage si on a le temps. Alors que Dieu vous bénisse et puis continuez à grandir, continuez à croître et prenez soin de ceux que Dieu place autour de vous. Soyez comme Tite. Soyez comme Crescens. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.